VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 10 novembre 2016, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Anne Albertson. Aujourd'hui encore, actualité oblige, nous consacrerons une bonne partie de cette édition à la victoire surprise du républicain Donald Trump à la présidentielle américaine du 8 novembre et aux réactions ici aux États-Unis et en Afrique.
Oui, et pour commencer, des milliers de protestataires sont descendus dans la rue hier dans plusieurs grandes villes des États-Unis pour exprimer leur mécontentement.
Le président Barack Obama et son épouse Michelle recevront, eux, aujourd'hui à la Maison-Blanche, Donald et Melania Trump.
En Afrique, une vingtaine d'étudiants qui manifestaient hier à Kinshasa ont été blessés dans des affrontements avec la police.
Et en Afrique du Sud, le président Jacob Zuma, qui fait face à une série de scandales de corruption, se heurte aujourd'hui à une nouvelle motion de défiance au Parlement.
Le Kenya a débuté comme prévu hier le rapatriement de ses casques bleus déployés au Soudan du Sud.
Tels sont quelques-uns des titres que nous allons développer dans cette édition.
Ici aux États-Unis, le résultat de la présidentielle du 8 novembre est difficile à accepter pour des milliers de protestataires qui sont descendus dans la rue hier soir dans un certain nombre de grandes villes américaines. Ces manifestations ont été pacifiques jusqu'ici, les protestataires scandant le slogan « Pas de Trump, pas de USA raciste ». Précision de Jean-Roger Bion.
À New York, une foule nombreuse a envahi la 5e avenue en face de la Trump Tower où habite Donald Trump, brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Love Trump Hate », un jeu de mots pour dire « L'amour l'emporte sur la haine ». Une autre foule s'était aussi rassemblée devant la prochaine demeure de M. Trump, la Maison-Blanche, ici à Washington. Des manifestants ont également bloqué la circulation à Chicago et marché à travers les rues de Philadelphie, Boston, Los Angeles, San Francisco et Seattle. Auparavant, des lycéens et étudiants avaient quitté en masse leur classe et amphithéâtre en Californie, un état où réside une importante population hispanique. Et à Los Angeles, ils étaient des centaines devant la mairie à crier que Donald Trump n'est pas mon président. La plupart des manifestants disent qu'ils ont peur, qu'ils craignent qu'une administration Trump va promouvoir des politiques anti-immigration. Ils dénoncent les vues racistes, sexistes et xénophobes, selon eux, de Donald Trump à cause des déclarations qu'il a faites pendant la campagne électorale. Aucune réaction pour le moment côté Donald Trump. Plus tôt dans la journée, la démocrate Hillary Clinton, réagissant à sa défaite, avait dit à ses propres partisans qu'il devait garder un esprit ouvert et laisser au président élu la chance de diriger le pays.
Le président Barack Obama, qui recevra aujourd'hui son successeur dans le bureau ovale, avait de son côté affirmé hier que l'Amérique tout entière souhaitait le succès de Donald Trump, expliquant, je cite, « Nous ne sommes pas d'abord démocrates ou d'abord républicains, nous sommes d'abord américains. » Le président sortant a par ailleurs souhaité une transition en douceur avec le milliardaire populiste dont il avait affirmé pendant la campagne qu'il représentait une menace pour la démocratie. Il s'est dit encouragé par les propos conciliants du président élu après sa victoire. Avec John Lyndon, la rencontre d'aujourd'hui entre Barack Obama et son épouse Michelle, avec Donald et Melania Trump à la Maison-Blanche.
Le locataire de la Maison-Blanche a invité le président élu Donald Trump à venir le rencontrer pour faire le point sur le planning de transition sur lequel son équipe travaille depuis presque un an. Assurer une transition harmonieuse est l'une des priorités que Barack Obama a identifiées et rencontrer le président élu en est la prochaine étape, souligne la Maison-Blanche. Il est maintenant question pour Barack Obama de travailler avec Donald Trump sur les mesures à prendre pour rassembler le pays après une rude campagne qui aura tenu l'Amérique et le monde entier en haleine. Le mania de l'immobilier a surpris l'Amérique en déjouant tous les pronostics et remporté la course à la Maison-Blanche face à Hillary Clinton, qui était donnée favorite. Donald Trump a adopté dès son discours d'acceptation un ton posé, porteur d'un message de réconciliation.
Nous reviendrons sur la victoire surprise de Donald Trump dans cette édition. En attendant, quelques autres nouvelles.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En République démocratique du Congo, une vingtaine d'étudiants qui manifestaient hier à Kinshasa contre l'augmentation du taux de change pour le paiement de leurs frais universitaires ont été blessés dans des affrontements avec la police. Nous avons reçu 23 étudiants blessés, dont 5 grièvement blessés par balle, que nous avons transférés à l'hôpital militaire du camp Kokolo pour une prise en charge conséquente, a déclaré à l'AFP un médecin de permanence au centre médical de l'Institut supérieur des techniques appliquées où les heurts ont eu lieu.
Interrogé par la presse au sujet de cas de blessures par balle, le général Célestin Kanyama, chef de la police de Kinshasa, a répliqué que la police n'utilisait que des armes non létales. Ces violences surviennent en tout cas à une période où le climat est tendu dans le pays. La RDC est minée par une crise politique liée au report de l'élection présidentielle à la suite d'un accord conclu en octobre entre la majorité et une frange minoritaire de l'opposition.
En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma, qui fait face à une série de scandales de corruption, se heurte aujourd'hui à une nouvelle motion de défiance au Parlement. On s'attend à ce qu'il s'en tire encore, malgré la colère qui monte au sein de son parti. C'est la troisième fois en moins d'un an que le chef de l'État est contesté à l'occasion d'un vote de censure ou de destitution. Ce vote a été décidé dans la foulée de la publication la semaine dernière d'un rapport de la médiatrice de la République qui a jeté un regard cru sur la gestion des affaires de l'État par le président.
Particulièrement documenté, cet épais document révèle par le menu l'influence exercée sur le gouvernement par la richissime famille Gupta à la tête d'un puissant empire industriel et médiatique avec la complicité de Jacob Zuma. Entre autres exemples, ce rapport affirme que les Gupta ont offert un pot de vin de 40 millions d'euros au vice-ministre des Finances, Sibisi Jonas, qu'il assure avoir refusé. Ce rapport vient s'ajouter à la longue liste des affaires qui ont défrayé la chronique de la présidence Zuma, à commencer par celle des travaux effectués dans sa résidence privée qu'il a contraint à rembourser 500 000 euros.
Le Kenya a débuté comme prévu hier le rapatriement de ses casques bleus déployés au Soudan du Sud au sein de la MINUS. Des détails avec Claire Morin-Gibou.
Un premier groupe d'une centaine de soldats en provenance de Vaud, dans le nord-ouest du pays, a atterri à la mi-journée à l'aéroport international de Nairobi. Les autres soldats doivent être rapatriés dans les prochains jours. Le général Benjamin Biwott a confirmé le retrait des casques bleus de la MINUS, conformément aux directives du président Uhuru Kenyatta. Le contingent kényan, l'un des plus importants de la MINUS, compte environ 1000 soldats sur les 13 500 casques bleus déployés dans le pays. Le rapatriement de ces casques bleus fait suite au limogeage du commandant kényan de la mission onusienne au Soudan du Sud. Il avait été démis de ses fonctions début novembre. Une enquête de l'ONU avait accablé les casques bleus pour leur inaction lors des violences de juillet à Djouba, ayant opposé les forces du président Salva Kiir à celles de l'ex-chef rebelle, alors vice-président du pays, Riek Machar.
La plus haute juridiction administrative en France a définitivement condamné hier l'État pour des contrôles d'identité au faciès. Une première saluée par les militants qui dénoncent depuis des années une pratique discriminatoire. John Lyndon.
La Cour a estimé qu'un contrôle d'identité discriminatoire constituait une faute lourde qui engageait la responsabilité de l'État et a précisé la façon dont la discrimination doit être prouvée. C'est une grande victoire à saluer Maître Félix de Bello, qui a défendu en première instance et en appel les 13 hommes à l'origine de cette bataille judiciaire. L'affaire avait commencé en 2013 lorsque 13 personnes d'origine africaine ou nord-africaine s'étaient lancées dans un combat judiciaire dénonçant des contrôles injustifiés, parfois associés à des palpations, des insultes ou du tutoiement. Après avoir perdu en première instance en octobre 2013, les plaignants avaient fait appel et en juin 2015, la Cour d'appel de Paris avait donné raison à 5 d'entre eux, condamnant l'État à verser 1 500 euros de dommages et intérêts à chacun. Une étude menée en 2013 à Paris montre que les Noirs et les Arabes sont beaucoup plus contrôlés par la police.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. Revenons maintenant sur l'élection surprise du républicain Donald Trump et les réactions qu'elle a suscitées en Afrique. Nous commençons à Ouagadougou, au Burkina Faso, avec les réactions recueillies par notre correspondant Zoumana Wonogo.
Moi, c'est Lamizana Awa. Étant femme, je voulais que la dame la gagne, que ça soit une fois dans l'histoire de l'Amérique aussi, pour qu'une femme gouverne. Comme Trump a gagné, je le souhaite bon vent. Et c'est le meilleur qui a gagné. Faut pas qu'il oublie les femmes surtout.
Je suis Souleymane Zabsonré. Il faut dire que c'est une victoire qui nous étonne parce qu'on ne s'attendait vraiment pas à cela. Ce n'était pas mon candidat, ce n'est pas celui que j'ai souhaité voir au pouvoir aux États-Unis. Mais bon, les Américains ont fait leur choix. Bon, on va espérer qu'on se trompe vraiment sur son compte et que bon, les choses se passent autrement, pas vraiment comme on l'imaginait.
San Luidi Galbino, pour M. Trump en Amérique, je suis très content de lui. Je lui souhaite bon vent et dans sa lourde tâche, bravo à lui. C'est un grand monsieur, son discours passé pendant la campagne et son discours après l'élection, c'est différent parce qu'il y a la maturité. Quand on est sur le champ de bataille et quand on a gagné, ça fait deux choses.
Monsieur Oudraou Boukari, Trump a gagné, mais moi j'étais avec la dame. C'est les Américains qui l'ont fait élire, donc pour ça il n'y a pas de problème. Ce que j'ai retenu de eux, c'est que c'est la vraie démocratie. Quand tu gagnes, il y a sans discussion. Tout le monde est d'accord, l'opposant est d'accord, tout le monde est d'accord, c'est ce que nous souhaitons. Mais maintenant, pour nous les Africains, ce qui me fait mal, ils n'ont pas cet exemple. Deuxièmement, ce qui me fait mal aussi, les Européens et les Américains aussi, hop, chez eux, il n'y a pas d'observateur. Mais ici, il y en a un observateur.
Je m'appelle Kabore Faisal. Pour moi, je suis fier déjà du fait que c'est Donald Trump qui a gagné. Tout simplement parce que, contrairement à ce que les gens pensent, c'est la réalité des États-Unis qui l'a su d'une manière ou d'une autre mettre au devant de la scène. Son élection me plaît beaucoup. Et pour moi, je suis persuadé que les pays africains vont en tirer quelque chose de positif dans cette élection.
À Bamako, l'ambassade des États-Unis avait organisé hier une matinée électorale dont notre correspondant Kassim Traoré nous donne des échos.
Plusieurs personnalités étaient au niveau de l'ambassade des États-Unis, des diplomates, des ministres, mais aussi des leaders religieux, comme Mohamed Makiba, qui se réjouit de la victoire de Trump.
Et puis c'était mon candidat aussi. Je suis très content, très heureux. L'Amérique, c'est une grande puissance du monde qui peut orienter la politique mondiale là où elle veut. Donc c'est pour cela que tout le monde a suivi avec prudence cette élection. Et puis l'arrivée de Trump aussi, pour moi, ça peut amener la justice dans le monde. Parce qu'il a la même idéologie comme Poutine, souvent. Donc ça, c'est la justice, la paix sociale dans le monde et la lutte contre le terrorisme et le radicalisme.
Pour le jeune politologue Mamadou Diallo, Donald Trump doit envoyer un signal fort à l'endroit de la communauté internationale.
Et je pense que son premier défi sera de réunir tous les Américains. Ensuite, il faudrait qu'il envoie aussi un signal fort au reste du monde pour véritablement rassurer. Parce qu'il y a quand même des points de préoccupation concernant les questions globales, les questions internationales. Et il ne faudrait pas que les États-Unis se renferment sur eux-mêmes. Il y a des questions autour desquelles les États-Unis doivent coopérer et véritablement avec leurs partenaires comme le nucléaire iranien, le conflit israélo-palestinien. Mais pour ce qui concerne de l'Afrique, je ne m'attends pas à de grands changements.
Pendant cette matinée, les femmes étaient les plus nombreuses. Elles étaient venues soutenir Hillary Clinton. Malgré sa défaite, elles ont été fair play à l'image de Keita Fatmata Sango, présidente de l'Association pour le développement de l'Afrique.
Je pense qu'une fois de plus, l'Amérique a donné l'exemple. La démocratie, l'attachement aux valeurs démocratiques et au bon déroulement des élections en termes de résultats, une fois de plus, cette grande nation nous a donné cet exemple-là. Il est vrai que, en tout cas personnellement pour ma part, je ne m'attendais pas du tout à ce résultat et je dirais même que j'étais plutôt de l'autre côté à plusieurs titres, notamment en tant que femme. Mais malgré tout, voilà, l'Amérique nous a donné cet exemple. Le peuple a parlé et la voix des urnes a triomphé.
Dans son premier discours, Donald Trump n'a rien dit de façon spécifique par rapport à l'Afrique. En tout cas, le monde entier a les regards braqués sur les États-Unis et son nouveau président, le 45e de leur histoire. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Notre correspondant Zakaria Camara à Conakry a recueilli des réactions en Guinée.
Moi, je suis vraiment surpris parce que pendant les 6 mois de campagne, les sondages mettaient Hillary Clinton largement devant Donald Trump. Je n'attends pas beaucoup de choses de lui, surtout à travers les termes qu'il utilisait, des propos racistes envers les musulmans, envers la communauté hispanique vivant aux États-Unis.
Moi, je suis content. Donald Trump, je le connais, ça fait longtemps. C'est un grand homme.
Moi, je suis vraiment surpris. Je m'attendais à ce que Hillary Clinton arrive à prendre sa place. parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont avantagés, surtout pour nous les Noirs, les Africains.
Je ne m'attendais pas à ce qu'il gagne, et surtout que ce n'est pas mon candidat. Moi, c'est Hillary Clinton que je soutenais, parce que non seulement elle est démocrate, mais aussi je voulais qu'une femme soit présidente des États-Unis quoi, pour la première fois.
Vous écoutez VO Afrique. Au micro, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Actualité oblige. Ces dossiers seront donc consacrés à des analyses et réactions après la victoire surprise du républicain Donald Trump à la présidentielle américaine du 8 novembre. Le nouveau président élu des États-Unis sera investi le 20 janvier prochain. Mais quels sont les défis auxquels il va faire face? Eric Manirakiza a joint l'analyste politique et professeur de l'Université de Virginie, James Caesar.
Il aura plusieurs choses à faire tout de suite. Il a promis d'abord de commencer son fameux mur avec le Mexique. Il a dit qu'il allait expulser tout de suite les immigrants, au moins les immigrants criminels. Ça va peut-être arriver tout de suite. Puis il a parlé d'un plan pour une défaite de l'État islamique avec pas beaucoup de détails, mais il a promis quand même. Et puis il va dépenser beaucoup d'argent pour les infrastructures dans les 10 ans qui viennent. Donc, c'est une espèce de projet pour le commencement de son mandat.
Oui, mais dans les 100 premiers jours, qu'est-ce qu'il devrait faire, selon vous?
Il a dit qu'il a annulé tout de suite beaucoup de règlements que Obama a soutenus. Et puis, comme je disais, il dit qu'il va demander aux généraux des forces militaires de lui donner un plan pour une défaite de l'État islamique. Ce ne sont pas nécessairement des choses sérieuses. C'est la rhétorique de la campagne. Et maintenant qu'il est élu, il doit décider les choses vraiment les plus importantes, ce qu'il peut faire tout de suite. Et vous savez, avec beaucoup de choses, ce ne sont pas que des propos. Ce qui est nécessaire, c'est d'avoir le soutien du Congrès. Donc, c'est un grand processus. Ça dépend de la question. Il y a des choses qui sont sous le contrôle du président, mais une grande partie qui sont sous le contrôle du Congrès. Par exemple, le mur. Il faut avoir une loi et il faut avoir des fonds pour construire le mur.
Il y a la question de la Russie, par exemple. Trump qui inspire beaucoup plus confiance à Poutine qu'à l'OTAN.
Ce qu'il va faire avec la Russie, ce qui n'est pas très cohérent, ça il faut dire. Il a parlé un peu favorablement en ce qui concerne Poutine. Mais hier soir, par exemple, il a modifié en disant que, bon, il va être juste avec tous les autres pays, mais il va défendre les intérêts des États-Unis. Je peux dire que sous ce plan-là, sur l'OTAN et la politique extérieure, ce que nous avons vu jusqu'à maintenant est très flou. Et donc, ça va changer. Et il s'agit aussi de question qui va être le secrétaire d'État. Cette personne-là va avoir beaucoup de marge de manœuvre. Et on verra après le choix de ce personnage-là. C'est un des choix les plus importants.
Trump, qui a promis beaucoup de choses pendant sa campagne, est-ce que vous pensez que maintenant qu'il sera dans la réalité du pouvoir, il pourra réaliser ce qu'il a promis?
Personne ne peut réaliser tout ce qu'il a promis, par exemple le président Obama. Mais c'est ce qu'il faut faire, c'est de choisir trois choses faisables tout de suite pour montrer qu'on peut agir. Démontrer qu'on est sérieux. Il n'est pas nécessaire d'accomplir tout ça, ce n'est que le baratin de la campagne. Mais il va choisir les priorités tout de suite. Ces priorités peuvent être les choses qu'il peut faire lui-même, et puis d'autres choses qu'il doit faire avec le soutien du Congrès, qui est maintenant, il faut dire, majoritairement républicain dans les deux chambres.
Il y a l'Obamacare qu'il a promis d'annuler. Est-ce que vous pensez qu'il pourra introduire une autre forme d'assurance maladie aux Américains immédiatement?
Ça fait partie d'une loi. Donc, il faut avoir le soutien du Congrès. Sauf que, au sein de cette loi, il y a beaucoup de décisions qui ont été prises par le président Obama. Et Trump pourrait annuler ces décisions comme ça, les décisions qui sont sous le contrôle du président. Peut-être qu'il va commencer tout de suite, quand il est élu, en disant que je vais annuler une telle ou telle réglementation, etc., etc., pour montrer qu'il n'accepte pas Obama. Mais pour faire tout un changement de l'Obamacare, il faut le faire avec la coopération du Congrès. C'est aussi vrai que les démocrates ont admis pendant la campagne, y compris Mme Clinton et son mari, qu'il y a de graves problèmes avec Obamacare. C'est déjà admis et donc ça va donner une possibilité d'avoir du soutien de quelques démocrates.
Le professeur James Caesar de l'Université de Virginie. Comment expliquer la victoire surprise de Donald Trump? Idriss Fall a joint le professeur Patrice Cabea, qui enseigne l'économie politique à l'Université de Leeds en Grande-Bretagne.
Et quand beaucoup de pays sont sortis de la récession depuis 2008, alors le message de Trump assurait le peuple américain qu'il peut transformer l'économie américaine. Parce que si tu regardes durant la période de la gestion d'Obama, la croissance économique aux États-Unis n'a pas beaucoup avancé en termes de produit national brut. Bien sûr, il y avait un peu des emplois qu'on créait, mais il n'y avait pas une stabilité dans ce sens-là. Mais dans le message de Trump, il disait que moi, je suis un homme d'affaires. Je peux créer des entreprises, je peux amener des autres hommes d'affaires, je vais investir des capitaux pour régénérer la croissance économique. Alors ce message-là donnait beaucoup la confiance, puisque beaucoup de gens cherchaient le travail pour payer leurs dettes, ainsi de suite. Alors il y a aussi un autre facteur. Trump veut réduire la taxe d'investissement pour les sociétés qui veulent venir investir aux États-Unis de 33. Actuellement, c'est 33%. Lui veut réduire ça, je pense, à 15%, 13 à 15%. Alors c'est ce qu'on appelle un boost, un encouragement pour les investisseurs, pour qu'ils puissent investir dans les secteurs-là. Maintenant, la majorité de la classe moyenne, les gens avaient confiance en Trump, malgré les sondages qui changeaient de temps en temps. Moi, je savais que Trump devrait gagner les élections aux États-Unis.
Est-ce que vous pensez que Donald Trump à la Maison-Blanche, ça va changer quelque chose dans la politique des États-Unis vis-à-vis de l'Afrique?
Sa politique extérieure n'est pas bien définie. Ce qu'il a défini dans sa campagne, c'était la politique économique qui a donné confiance. Les gens ont dit que bon, on va un peu les voter et ça a donné un peu la confiance au niveau de la population. Mais sur le plan extérieur, l'Afrique, Trump n'est pas beaucoup intéressé dans le contexte africain. Mais ce que les Africains doivent faire, c'est faire des grands lobbying pour le moment, de montrer que en Afrique, il y a un problème de la dictature et comment changer le régime. C'est ce que Obama a manqué de faire, puisque Obama n'a pas vraiment bousculé. Obama n'était pas trop dur aux présidents africains. Lui a appliqué la démocratie, la diplomatie, qui est bon, mais dans le contexte africain, il faudrait au moins un président très dur, très fort vis-à-vis des dictateurs pour qu'il sache que pour qu'il y ait développement, il faut qu'il y ait l'alternance démocratique, qu'il y ait les institutions qui sont beaucoup plus solides et durables. C'est dans ce sens-là. Sinon, il y aura beaucoup d'afflux de gens qui vont toujours rentrer aux États-Unis. Donc, Trump doit adresser cet aspect problème sur le plan de la politique des États-Unis au niveau de l'Afrique.
Le professeur Patrice Cabea enseigne l'économie politique à l'Université de Leeds en Grande-Bretagne. Le docteur Botyan Marc Essis, il est politologue internationaliste, chef du département de sciences politiques à l'Institut universitaire d'Abidjan, Côte d'Ivoire, s'intéresse, lui, à deux aspects, le commerce avec l'Afrique et l'immixtion dans les affaires intérieures des affaires du continent, des États du continent, pardon.
Les accords entre l'Afrique et les États-Unis, c'est vrai, il y a des études qui ont montré que par rapport à l'AGOA, l'impact n'est pas aussi énorme. L'impact au sens négatif du terme n'est pas énorme. Le préjudice n'est pas énorme pour les États-Unis. Mais il faut s'attendre à tout. Et une telle projection s'appuie sur ce que Trump a prévu de faire dans le cadre de sa plateforme de gouvernance, à savoir la renégociation de tous les accords commerciaux passés entre les États-Unis et leurs partenaires à l'échelle globale. Pour les Africains qui sont épris de souveraineté, épris d'autodétermination, cela pourrait paraître comme une opportunité dans la mesure où ce changement de cap-là aiderait, par exemple, à ne plus s'immiscer dans les affaires intérieures, touchant, par exemple, au changement de régime du fait des interventions américaines. Je pense au cas de la Libye. L'aide au développement est un outil qui aide au positionnement des États épris de prestige à l'échelle internationale. Donc je m'imagine bien que les États-Unis, y compris sous l'administration Trump, s'inscriront dans cette dynamique-là.
Le docteur Botyan Marc Essis, politologue internationaliste, chef du département de sciences politiques à l'Institut universitaire d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Nous allons terminer maintenant avec les réactions de trois Africains résidant en France. Ils sont au micro de Nanit Talani.
Je suis Steven Lumière Moussala, franco-congolais, africain d'origine. Je trouve que c'est une nouvelle orientation politique, puisque nous sommes quand même dans un monde où les accumulations d'insatisfaction et d'incompréhension débouchent sur des actes collectifs, ce qui a donné lieu, je pense, au vote de Donald Trump. Ça me fait plaisir, parce que c'est une sanction qui est donnée non pas seulement à l'élite américaine, mais c'est aussi un peu partout dans le monde. Et qu'en tant que citoyen français et qui regardant un tout petit peu ce qui se passe à travers le monde, je me rends compte que c'est une démarche qui vise à alerter toute la classe dirigeante mondiale sur des situations qui restent à trouver des solutions, notamment la question des inégalités qui sont de plus en plus frappantes dans ce monde. Donald Trump n'est pas un politique au sens du terme, mais je pense qu'il n'est pas aussi mauvais en tant que tel. Je peux déjà subodorer que c'est quelqu'un qui va apporter quelque chose de nouveau sur le paysage politique mondial.
Je suis Alphonse Ndongo. Tel que nous avons pu observer le déroulement de la campagne présidentielle américaine depuis l'Afrique, on a eu l'impression qu'il y avait déjà le tapis rouge pour Hillary Clinton. Et c'est finalement donc Trump qui est passé comme président des États-Unis. Cela, pour moi, est une énorme surprise. Il y a des choses qui peuvent faire peur. À en croire tout ce que Trump a pu dire sur ses relations avec la Chine, avec l'Union européenne, et dans une moindre mesure avec l'Afrique. Il n'a pas une assez bonne approche même de l'Afrique. Et que deuxièmement, il a dit qu'il va falloir, peut-être, ce n'est pas son expression, mais c'est comme ça que je traduis cela, qu'il va falloir maintenant privatiser les services de sécurité des États-Unis lorsqu'il s'agit d'aller intervenir dans un pays. Est-ce que les pays africains peuvent avoir assez de moyens pour payer aux Américains qui doivent venir intervenir chez nous? J'en doute, surtout si on tient compte de la conjoncture actuelle. Autre chose aussi, ses relations avec la Chine, le fait qu'il parle de protectionnisme et qu'il veuille relever jusqu'à pratiquement 45% les produits chinois qui entrent aux États-Unis, je ne pense pas que cela peut être bien accueilli, n'est-ce pas, au niveau de Pékin. Donc, on va voir, est-ce que le Trump que nous avons connu pendant les campagnes présidentielles sera celui qui va être le prochain locataire à la Maison-Blanche, comme disent les Américains, wait and see.
Oumed Daoud, je suis djiboutien. Je ne m'y attendais absolument pas. L'arrivée de Donald Trump à la tête de la Maison-Blanche suscite beaucoup d'inquiétudes, nous autres Africains, mais aussi l'Europe, même la France, dont les États-Unis sont les premiers partenaires économiques, premiers partenaires politiques également, de par sa campagne. Les propos tenus par Donald Trump, tant sur les femmes que sur les musulmans ou les latinos, et la remise en cause des engagements internationaux des États-Unis d'Amérique. Les deux choses l'une, soit il met en application ce qu'il a dit durant sa campagne, le protectionnisme au niveau économique et commercial par rapport aux États-Unis ne sera absolument pas bénéfique, ou alors il redevient un président normal, comme on dit ici en France, qui est soucieux d'entretenir des relations tout aussi normales avec le monde entier, que les États-Unis continuent à être un petit peu les gendarmes du monde, notamment au Moyen-Orient et même en Afrique.
Les réactions de trois Africains recueillis par Nanit Talani.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme, Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le monde aujourd'hui. aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.